Nous allons poursuivre avec notre sujet principal qui va porter donc sur les groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres. Donc je vais présenter mes invités déjà. Nous allons commencer par donc Magali Garnero. Bonjour Magali.
Salut Fred.
Didier Clermonté, bonjour Didier.
Bonjour Fred.
Romain Volpi, bonjour Romain.
Bonjour Fred.
Voilà. Alors on va vous présenter, on aura pu intituler ce sujet bouge ton gul. Oui, j'ai osé le faire, parce qu'en fait, l'acronyme pour groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres, c'est GUL, G-U-2-L. Donc, c'est un groupe qui existe depuis au moins une vingtaine d'années, et on va échanger un petit peu avec nos invités, qui, chacun et chacune, sont bénévoles dans un groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices. Hein. Magali, on présentera évidemment Parinux, la région parisienne, Didier Clermonté, l'INES, l'Essonne, et le régional de l'Étape. Plutôt régional de la région de Lyon, Romain Volpi pour l'association lyonnaise qui s'appelle l'ALDIL, et qui interviendra ensuite dans la chronique avec Isabella pour présenter un événement important dans, on va dire, l'agenda libriste annuel, qui sont les journées du logiciel libre de Lyon qui ont lieu à la fin du week-end. Alors déjà, pour première chose, on fait un petit tour de table de présentation pour savoir ce que vous faites un petit peu dans la vie. Donc, allez, Magali, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Magali Garnero?
Alors, je suis évidemment libraire. Voilà, je ne suis pas du tout informaticienne. Et j'anime ma petite librairie de quartier dans le 11e arrondissement de Paris où je vends pas mal de livres, dont certains, de Framabook, des Floss Manuels. Bref, des livres que vous trouvez nulle part ailleurs. Et je suis également trésorière de Parinux et administratrice à l'April.
Et Framasoft aussi.
Et membre de Framasoft.
Et membre de Framasoft. Donc elle est multicasquette. Et pour les personnes à qui le nom Magali Garnero ne dirait rien, vous pouvez chercher Bouquinette.
Voilà, avec un Y.
Avec un Y, elle est plus connue sous ce nom-là. Didier Clermonté, qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Donc je suis retraité, j'ai 71 ans. J'ai été de base ingénieur des travaux publics. J'ai fait toute ma carrière essentiellement en bureau d'études génie civil. Donc j'ai édité des notes de calcul. Et donc, oui, j'ai développé des petits logiciels techniques. Et maintenant, je suis le président de l'INES, qui est le GUL de l'Essonne. L'INES comme Linux Essonne.
Très bien. Et Romain Volpi, tu fais quoi?
Du coup, moi, je travaille dans une petite société d'informatique sur Lyon. Et sinon, je suis administrateur de la LIL, donc qui est Association Lyonnaise de Développement de l'Informatique Libre, et membre de l'April et d'ILIS.
Très bien. Élise, c'est Saint-Étienne.
C'est Lyon-Saint-Étienne.
Lyon-Saint-Étienne, d'accord. Ok. Ouais. Alors, première question collective, évidemment. C'est quoi un groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres? Donc, c'est quoi un GUL? D'où ça vient, ce terme? Et quels sont les objectifs de ces groupes? Quels sont les publics visés? Qui veut commencer? Allez, Magali.
Alors, GUL, c'est la traduction de LUG, Linux User Group. On va dire que c'est des gens bien qui se sont retrouvés ensemble pour utiliser des logiciels libres et puis surtout les défendre, les promouvoir et les améliorer.
Alors, effectivement, historiquement, le nom anglais vient de Linux Users Group. Alors, Linux, c'est une partie du logiciel libre. Donc, c'est un noyau de système d'exploitation. En français, ça a été francisé après pour GUL, groupe d'utilisateurs de logiciels libres. Parce que, effectivement, initialement, c'était plutôt des gens qui utilisaient des systèmes d'exploitation que nous, on appelle GNU Linux. Pour rendre aussi le travail, mettre en valeur aussi le travail du projet GNU, notamment de la Fondation pour le logiciel libre de Richard Stallman. Mais aujourd'hui, voilà, même si initialement c'était des gens qui utilisaient plutôt un système de type GNU Linux, aujourd'hui ça regroupe plutôt des gens qui utilisent globalement du logiciel libre. Alors ça peut être du logiciel libre d'ailleurs sur des environnements privateurs comme Windows ou Mac, voire même d'autres systèmes libres comme les systèmes de la famille BSD. Donc ça existe depuis combien de temps? Il y a d'ailleurs une petite question, vos trois groupes, vos trois GUL. Alors on va utiliser le terme GUL, ça ira plus vite, hein, comme ça pendant l'émission. Vos trois GUL existent depuis combien de temps? Romain, l'ALDIL à Lyon.
Une vingtaine d'années.
Une vingtaine d'années, l'INES en Essonne.
Depuis 2000, 19 ans.
19 ans, ah oui. Et Parinux
A priori 98.
Je confirme. Je confirme, et étant plus vieux que Magali et étant déjà à l'époque dans ce activiste logiciel libre, j'ai assisté à la naissance de Parinux. Donc là, c'est des groupes qui existent depuis assez longtemps. Et effectivement, sans doute que les premiers, ça doit faire 20, 25 ans qu'ils ont existé. Maintenant, il y a des groupes qui existent depuis plus récemment, évidemment. Donc là, on a trois types différents. Quelles sont les principales activités, quels sont les principaux objectifs d'un GUL? Didier.
Alors, je ne parlerai pas en règle générale, je
Alors,
parlerai,
pour,
je
l'INES,
parlerai
par exemple.
Pour l'INES. Pour moi, mon but, quand on installe un système GNU Linux, les gens disent « vous êtes bien gentil », mais après, qui va me faire de l'assistance? Donc, mon but, c'est que les gens aient un point, ils savent que tous les 15 jours, ils peuvent venir 53 rue Montessuie, à Juvisy, et ils seront dépannés dans la mesure du possible. C'est un point de maintenance, un point d'assistance. C'est de l'assistance à utilisateur, en fait.
Donc, c'est une permanence qui a lieu tous les
15 jours.
Tous les 15 jours. Donc, tous les 15 jours, l'INES... vous avez donc une permanence physique où les gens peuvent venir.
Oui.
C'est quoi? C'est le soir, le week-end?
C'est le samedi après-midi. Enfin,
le samedi après-midi.
Tout le samedi après-midi.
Tout le samedi après-midi, d'accord. Donc ça, c'est important parce que c'est une activité que n'ont pas forcément tous les GUL, d'avoir une permanence régulière. Donc pour les gens qui sont en Essonne, donc c'est à Juvisy. On mettra l'adresse évidemment sur le site, mais sinon, vous allez sur le site de l'INES. Donc c'est l'INES.org.
L'INES.org.
Avec deux S, hein, L-I-N-E-2-S.
Comme l'IN et Essonne.
Essonne, exactement. Donc la principale activité, donc voilà, le but, c'est d'offrir de l'aide aux personnes qui découvrent le logiciel libre. Et de le faire en plus de façon récurrente, quelque part, avec un rendez-vous régulier. Est-ce que vous organisez aussi des conférences à l'INES, en dehors de ces ateliers?
Historiquement, c'est arrivé. Depuis que je suis président, non. Mais historiquement, c'est arrivé, oui. Il y a eu des conférences. L'INES a un vidéoprojecteur. Bon, pour l'instant, c'est un peu en sommeil.
D'accord. Et quel type de public vient à ces rendez-vous?
Absolument n'importe qui.
N'importe qui.
N'a pas de tranche d'âge.
D'accord, vous n'avez pas un public type, ça pourrait être un public de jeunes qui découvrent l'informatique, ou au contraire comme toi, de retraités qui veulent s'y mettre, qui veulent changer de système, ou de professionnels.
Il y a absolument de tout.
De tout. D'accord. Côté Parinux, alors, quels sont les publics visés, les principales activités, même si après on pourra rentrer un peu plus dans le détail, de Parinux?
Ah, si je ne rentre pas dans le détail, on va dire que bah, c'est tout public.
Ouais.
Dans certains événements, ça va être vraiment à la Cité des Sciences, donc on accueille tous ceux qui veulent venir. D'autres événements, ça va être beaucoup plus restrictif, comme les soirées de contribution. On n'accueille que les gens qui viennent contribuer à des projets libres. Et puis bah, après, il y a les apéros, les villages, où on va un peu partout. Et là, bah, c'est ouvert vraiment à tous.
Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail tout à l'heure, mais je vais quand même rappeler ce que tu as cité. Trois types deux événements récurrents, mais on va les préciser. Donc, les événements donc à la Cité des Sciences et de l'Industrie, c'est les premiers samedis. Alors, c'est facile de s'en souvenir. C'est les premiers samedis du mois. Donc, on va supposer que le prochain a lieu le... Tu vérifies, le 6 avril 2019. On est mardi. Donc, c'est à la Cité des Sciences et de l'Industrie, au Carrefour numérique à partir...
De 14h.
De 14h. Je cherchais si c'était 13h ou 14h.
Bah, on se retrouve à 13h pour manger à la pizzeria, puis après, on va bosser.
D'accord. Donc les personnes qui viennent se faire sensibiliser au logiciel libre, vous avez l'information secrète de... Alors, maintenant, il vous reste à trouver le nom de la pizzeria et l'adresse, mais je pense que Magali vous la donnera. Tu as parlé des soirées de contribution. Alors, les premiers samedis, donc on va supposer que c'est un public qui est plutôt donc, néophyte qui découvre.
Voilà.
Les soirées de contribution, et on y reviendra tout à l'heure quand même, parce que c'est important, parce que c'est un public un peu différent, c'est comment contribuer au logiciel libre et pas forcément d'un point de vue technique. Donc là aussi, c'est récurrent dans le sens où c'est chaque jeudi, donc à la célèbre FPH, parce qu'on le cite très régulièrement dans cette émission, dans le 11e arrondissement de Paris, donc c'est à 19h. Donc la prochaine a lieu jeudi.
On est toujours 4
à avril, à partir de 19h. Et puis tu as cité des événements, c'est-à-dire la présence de bénévoles du GUL à des événements qui peuvent être très variés, comme par exemple l'espace numérique de la fête de l'UMA, ou des salons un peu plus professionnels, comme par exemple le POS à Paris, le Paris Open Source Summit à la fin de l'année. Oui, je sais, je cite des événements des fois, comme ça. Côté Aldil, est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est un peu différent?
Côté Aldil, en fait, elle a été créée pour gérer l'événement qui a lieu tous les ans, du coup, qui est les JDLL, les Journées du Libre Lyonnais.
D'accord.
Et après, en fait, on a développé d'autres événements plus réguliers, en fait. Donc, tous les jeudis, par exemple, on a des permanences dans une MJC sur donc, une maison jeune et...
Culture.
Et culture.
J'ai de la culture.
C'est ça, sur Lyon, et où les gens peuvent venir, qui sont des jeudis bidouilles, c'est ouvert à tous, et on a les lundis aussi, ou dans une autre MJC de Lyon, et voilà. Et puis après, on accompagne aussi des MJC pour migrer sous Linux, et on a aussi une fois par mois une conférence qui a lieu le jeudi soir, plus deux, trois install parties dans l'année, et deux, trois salons où on défend le logiciel libre, quoi.
La conférence, c'est à la maison du Rancy, c'est ça?
Maison des Rancy, ouais, maison pour tous des Rancy.
Maison pour tous des Rancy, ça me dit quelque chose, que j'y suis déjà intervenu justement. Donc on voit quand même des événements assez variés, avec quand même des permanences. C'est-à-dire que c'est important pour les personnes qui nous écoutent de se dire que, les, que ces groupes d'utilisateurs généralement proposent des permanences. Alors je précise que même si on a des représentants et représentantes de Paris, l'Essonne et puis Lyon, évidemment, il y a beaucoup plus que, enfin, il y a de nombreux groupes de GUL qui existent. Le site de référence pour les trouver, c'est un site qu'on cite à chaque émission également, c'est l'agenda du libre, hein, agendadulibre.org, sur lequel vous pouvez faire une recherche. Alors il n'y a pas que les GUL d'ailleurs, il y a d'autres structures qui sensibilise au logiciel libre. Donc normalement, dans votre région, on va dire que vous avez un GUL qui ne doit pas être très loin, hein, peut-être pas à 500 mètres, mais peut-être pas forcément très loin, et que globalement, vous allez retrouver des mêmes types d'activités avec des permanences, des conférences, la présence à des ateliers. Voilà, donc je précise, si vous cherchez, vous êtes dans une région que, par exemple, vous êtes, je ne sais pas moi, à Montpellier, ben, vous pouvez aller voir Montpellier Libre. Et puis si vous êtes dans une région où vous ne savez pas qu'il en existe un, vous allez sur l'agenda du libre, Magali.
Oui, agendadulibre.org/organisation au pluriel, vous tapez votre ville, votre département, vous la trouvez, et ils font aussi des apéros.
Alors,
c'est une activité dont on n'a pas parlé, alors que c'est alors, quand même assez fédérateur.
C'est une activité dont on parle à peu près à chaque émission, parce que c'est vrai que c'est une activité fondamentale pour la sensibilisation au logiciel libre, pour le partage, hein, parce que alors, dans l'ordre des apéros, on ne partage pas que les logiciels, on partage d'autres choses. Romain, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, ce qui est important à dire aussi, c'est que c'est ouvert à tous, et pas seulement aux membres des associations. Généralement, on accueille aussi les gens qui ne sont pas membres. Certains adhèrent justement à ces moments-là, mais ce n'est pas une obligation d'adhérer. C'est un partage avant tout, quoi.
Voilà. Alors ça, c'est important de le préciser parce que finalement c'est pas des services quelque part, hein, c'est ouvert à toute personne. Il peut y avoir peut-être des groupes qui fonctionnent d'ailleurs différemment, mais en tout cas vos trois groupes effectivement fonctionnent de cette façon-là. Alors sur la partie JDLL dont tu parlais tout à l'heure, donc les journées du logiciel libre, on va pas trop en rentrer dans le détail parce que sinon ma collègue Isabella qui fait sa chronique tout à l'heure sur ce sujet avec toi ne se dira de quoi je peux parler, mais on en parlera parce que c'est un événement important et en plus très très sympathique et pour y avoir participé de nombreuses fois, je trouve que c'est un des événements les plus sympathiques qui existent en France. Même si les autres événements sont sympathiques, mais en tout cas, voilà, l'organisation est assez fiable, il y a du public, c'est varié, mais on laissera Isabella évidemment en parler. Alors, vous êtes bénévole, une caractéristique des GUL par rapport à d'autres structures, par exemple à l'April, on n'est pas un GUL en tant que tel, nous on fait de la promotion de la défense en général, et on a une autre caractéristique, c'est qu'on a une équipe de 4 personnes dans l'équipe salariée. Donc, à ma connaissance, je ne sais pas si c'est, mais je pense qu'il y a très peu de GUL qui ont des personnes salariées. C'est plutôt sur un mode bénévole.
Moi, j'ai pas de salarié, ou alors c'est au black, hein, parce qu'on paye rien.
Magali, c'est en direct.
Non, on n'a pas de salarié du tout. C'est compliqué.
Voilà, de mémoire, effectivement. Enfin, je suis pas sûr qu'il y ait des structures. En tout cas, dans les GUL, je pense pas qu'il y ait des structures qui ont des salariés. Donc, c'est important aussi parce que quand les personnes qui viennent vous voir à des événements. Je suppose que ça se passe toujours très bien, mais il faut que les personnes quand même aient en tête qu'ils ont en face d'elles des personnes bénévoles qui donnent de leur temps. Alors justement, ça me fait penser à une question, parce que vous avez quand même des profils très différents, parce que c'est ça qui est intéressant, parce que Magali Garnero, donc tu l'as dit, tu es libraire. Didier Clermonté, toi tu es, bon aujourd'hui tu es retraité. Mmh. Et Romain, toi tu as une formation d'informaticien.
Oui, tout à fait.
Voilà, et même dans le libre, je suppose.
Non, pas forcément dans le libre, mais je suis sensibilisé au libre depuis longtemps.
Depuis longtemps. Et donc, trois profils assez différents. Alors, finalement, qu'est-ce qui vous motive chacun et chacune à contribuer dans un GUL?
Le partage de la connaissance.
D'accord. On fait un premier tour de table. Didier.
Se rendre utile pour un retraité, trouver un but et être efficace, faire quelque chose, quoi.
D'accord. Romain.
Permettre de partager la connaissance de l'informatique, qui n'est pas forcément aisée pour tout le monde, en fait. Et c'est vrai que non, c'est vraiment le leitmotiv pour moi, quoi.
D'accord. Alors ça me fait penser à la chronique de Vincent Calame la semaine dernière que je vous encourage à écouter, qui justement était sur le fait de partager ce qu'on découvre. C'est-à-dire, lui, il parlait des trucs et astuces dans l'utilisation d'un logiciel. Mais là, effectivement, il y a le partage. Et ça fait penser aussi à une autre chronique donc, de Véronique Bonnet qui sera diffusée la semaine prochaine, qui est intitulée « Partager est bon ». Donc c'est le partage, c'est l'entraide. Toi, Didier, parce que bon, je sais un peu comment Magali est arrivé dans le logiciel libre. Bon, on va pas révéler. La semaine dernière, j'ai révélé un petit nom d'un de mes invités qu'on se connaît depuis longtemps. On va pas rentrer dans tous les détails, mais on se connaît effectivement depuis quelques années. Didier, toi, qu'est-ce qui t'a amené au logiciel libre dans ton parcours ?
Eh bien, professionnellement, j'ai été vite confronté aux limites des logiciels propriétaires. Un logiciel de calcul de béton armé, il n'y en a pas tellement. Et puis en plus, s'ils ne conviennent pas, on ne peut rien faire, on est coincé. Donc je me suis dit, bah, il faut que je me fasse les miens et il faut qu'on puisse les modifier, l'analyser, savoir ce qu'il fait.
D'accord. Alors je précise aussi que maintenant tu participes à une autre activité dont on parlera dans 2 semaines, donc le 16 avril, mais pas avec toi, avec d'autres personnes, le chaton de l'April, donc dans le cadre du... Alors on va faire un test, est-ce que Magali se souvient de ce que veut dire chaton? Généralement tu es la spécialiste.
Alors, le problème de chaton, c'est que... Alors, dans le chaton, c'est le collectif d'hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires.
Voilà.
Par contre, pour le chapril, je ne sais pas exactement, parce que vous avez choisi un acronyme chapril, mais comme ça change suivant qui en parle...
Alors, voilà. En tout cas, donc, le projet chaton avec un S, donc chaton.org, initié par Framasoft, vise à offrir des services éthiques, loyaux, libres, en alternative aux services des GAFAM. Et le chaton de l'April s'appelle chapril. Alors, il peut y avoir plusieurs significations. Bon, bah, ça vient sans doute une contraction de chat et d'april. Et donc c'est chapril.org. Il y a actuellement 4 services, mais d'autres vont venir. Et donc toi et Didier, notamment, tu contribues sur 2 de ces services, hein, le DAT et le
PAST.
Et le PAST, c'est-à-dire permettant d'échanger de façon sécurisée des données. Donc voilà, tu t'investis très largement dans le logiciel libre, au-delà en plus de ton activité de l'INES. Je tenais à le préciser parce que voilà, on peut contribuer sans forcément être informaticien ou informaticienne ou avoir des connaissances techniques. Donc l'EGUL, c'est principalement des bénévoles, vous accueillez tout public. Est-ce que vous travaillez sous un mode de partenariat? C'est-à-dire que Parinux, par exemple, a une sorte de partenariat avec la Cité des Sciences, parce que finalement la Cité des Sciences accueille Parinux et d'autres groupes et d'autres structures lors de ce qu'on appelle les premiers samedis, puis globalement lors des conférences. Mais est-ce que vous avez l'occasion de travailler dans des partenariats, par exemple, pour sensibiliser des publics différents? Je ne sais pas.
Oui, dans le cadre de la Maison pour tous des Ranciers, en fait, où c'est vrai qu'on intervient beaucoup chez eux. Et effectivement, ils ont des espaces numériques publics, des espaces publics numériques qui se tiennent à peu près tous les 6 mois, et dans lesquels on va faire, par exemple, une install party. Et c'est vrai qu'on a aussi des partenariats avec d'autres MJC ou d'autres Maisons pour tous, où en gros, ils adhèrent à l'association, on vient on encadre les gens pour leur installer Linux, on intervient plusieurs fois pour les accompagner, quoi.
D'accord. Inès, vous avez des partenariats?
Avec le RERS, Réseau d'échange réciproque de savoir.
D'accord.
Donc, on est basé, notre adresse légale est chez eux, et en échange, tous leurs postes sont sous Ubuntu et c'est moi qui les entretiens, qui assure la maintenance des postes. C'est un réseau d'échange de savoir. Et voilà.
D'accord. Magali?
Bah, on va reciter la FPH, hein, qui nous reçoit tous les jeudis soirs. On a aussi des partenariats un peu temporels, enfin, ponctuels, on va dire ponctuels, avec l'Université Paris-Descartes. 2 fois par an, on va leur faire des install parties. On va aussi aller au Geek Ferries.
Ça a pas tout. Alors, les fameuses... Explique-nous ce que sont les Geek Ferries.
Alors, les Geek Ferries, c'est un des festivals que je préfère parce que j'y vais en tant qu'informaticienne, mais je pars qu'avec des gens qui ne le sont pas. Et en gros, c'est le festival de l'imaginaire. Donc, on va trouver des fans de tout ce qui est manga, d'Harry Potter, de fantastique, et ainsi de suite, qui se costument ou pas et qui sont en fait hyper réceptifs à ce qu'on leur dit. Leur liberté, c'est très important. Même si eux ne respectent pas forcément le droit d'auteur. En tout cas, ils aiment bien savoir ce qu'ils peuvent faire, ne pas faire, et ainsi de suite.
Et ça se passe où?
Alors, ça se passe à Selles-sur-Cher.
Alors, c'est situé où pour les personnes qui ne maîtriseraient pas la géographie? Ah, je vois que Magali, qui a pourtant été plusieurs fois...
Ça se passe à environ à 4h15 de Paris, en voiture.
Dans quelle direction?
J'en sais rien.
D'accord, ok. Bon, Selles-sur-Cher, vous cherchez
après
sur un moteur de recherche. Après Orléans. Et c'est en juin.
Et cette année, ça sera les 8-9 juin.
D'accord. Alors, comme on ne peut pas être à la fois sur le webchat et autres, on va demander aux gens qui sont sur le webchat de nous chercher où est Selles-sur-Cher. On va préciser que la FPH, alors on n'explicite pas l'acronyme à chaque fois parce qu'il est assez long, hein, et puis c'est devenu un mot-clé carrément, la FPH, mais sinon ça veut dire la Fondation Charles-Léopold Meyer pour le progrès de l'homme. On me signale aussi que je n'ai pas explicité GAFAM. Bon, GAFAM, c'est un peu l'acronyme pour Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. En fait, c'est tous ces géants du net, de l'informatique, en fait, qui font commerce notamment de vos données ou de vos libertés. Et quant à BSD, bah, initialement, ça veut dire Berkeley Software Distribution. C'est un système d'exploitation libre qui vient du monde universitaire américain. Mais pareil, BSD, c'est un mot-clé maintenant qui est effectivement largement utilisé, un peu comme GNU. On n'explique pas ce qu'est GNU, mais en fait, GNU, c'est un acronyme récursif pour GNU is not Unix. Et Unix est un système originellement multitâche, multi-utilisateur. Enfin, j'encourage les gens qui s'intéressent à cette histoire de l'informatique qui est passionnante de rechercher, notamment sur les pages de Wikipédia. Ce qui me fait penser que la semaine prochaine, nous parlerons à nouveau de Wikipédia. Alors, nous allons bientôt faire une petite pause musicale. Donc, on a parlé, oui, on va quand même finir sur les partenariats. Donc, je dis ça aussi pour encourager les autres GUL à aller chercher des partenariats. Alors, un partenariat qui paraît à peu près. Qui est assez logique et qui rejoint une autre activité de l'April dont parlera tout à l'heure Isabella. Vous voyez ce talent pour faire des liens entre les différents sujets, qui est évidemment libre en fait. Un partenariat classique, c'est avec les structures d'initiation à l'informatique, hein, les espaces publics numériques ou quel que soit le nom qu'on leur donne, comme des cyberbases. C'est des endroits où les gens viennent se sensibiliser à l'informatique, s'initier à l'informatique. Et il y a beaucoup de ces espaces publics numériques qui font leur formation, leurs initiations sur logiciel libre. Et les GUL peuvent trouver là un mode de partenariat assez pratique et utile. Tout simplement parce que il y a des ordinateurs qui sont déjà disponibles. Assez souvent, c'est en dual boot. Je vais par exemple parler de ma ville, Saint-Denis, cyberbase de Saint-Denis, donc place de la Résistance, et c'est en double amorçage. Alors dual boot, c'est-à-dire double amorçage. C'est-à-dire qu'on peut démarrer soit un système d'exploitation privateur, soit un autre système d'exploitation libre, comme par exemple Debian GNU Linux dont on a parlé, ou Ubuntu dont on a parlé déjà dans une émission. Et donc voilà, les ordinateurs sont déjà présents, vous avez des personnes là qui peuvent aider, et puis vous pouvez faire des événements soit récurrents, donc des permanences quelque part, ou des événements ponctuels. Par exemple, des samedis du libre ou des dimanches du libre ou des mardis soirs du libre. Donc voilà, c'est des événements importants et ça permet de toucher un public en plus qu'on ne toucherait pas forcément directement. Tu voulais réagir, Didier ?
Nous, à l'INES, samedi prochain, on fait une install party. On a mis des annonces dans le journal local. On va voir si on attire du monde.
Alors une install party, ce qu'on appelle une fête d'installation, même si ce n'est pas forcément un côté festif, c'est que des gens, des personnes viennent avec leur ordinateur. Alors ça peut être leur ordinateur portable, ça peut être leur tour, et elles vont être accompagnées pour installer un système d'exploitation libre. Ce n'est pas forcément les gens bénévoles qui vont le faire, c'est accompagné de manière aussi à ce qu'il y ait vraiment un partage de la connaissance du savoir. On encourage les personnes qui viennent à faire des sauvegardes de leurs données avant au cas où, parce que ça reste de l'informatique, de toute façon, ce n'est pas la magie. Alors je vais donner la parole à Magali, mais juste avant, je vais préciser donc, que la selle sur Cher, c'est en Loire-et-Cher. Voilà.
T'avais trouvé.
Ah, c'est ce que tu voulais dire?
Non, mais
non. Alors je te laisse intervenir et puis après on fera la pause musicale.
Ah oui, les partenariats, c'est pas forcément avec des lieux. Nous, en tant que GUL, régulièrement, on a exposé des choses qu'avait fait de l'April, comme l'Expo Libre. On a aussi retransmis à nos adhérents la lettre ouverte de la Quadrature. Bref, en tant que GUL, on peut servir de ce que font les associations nationales pour les relayer, ou on a participé à Libre en Fête. Bref, on peut servir de ce que vous faites, vous, à l'April, pour animer des événements ou même pour transmettre des informations.
Alors, on pense notamment aux campagnes du pacte du logiciel libre. Lors des élections, on encourage des candidats et candidates aux élections à signer un pacte en les engageant à promouvoir et à défendre le logiciel libre. Et évidemment, ce n'est pas l'April avec sa petite équipe de salariés et ses nombreux bénévoles quand même.
Mais qui sont merveilleux.
Mais qui sont merveilleux, effectivement. Surtout mes collègues. Hein, parce que bon, c'est un peu... en tout cas, voilà, il y a un relais d'information et d'action par les locales. Parce que voilà, il y a une action nationale et puis il y a une action locale. Donc effectivement, tu as tout à fait raison de préciser qu'un partenariat n'est pas forcément avec un lieu physique. Ça peut être avec une autre structure ou ça peut être dans un cadre d'un projet. Alors nous discutons, mais le temps avance et là je sens qu'on veut une pause musicale, donc nous allons lancer une pause musicale, le temps pour moi de retrouver le titre. Voilà, ça s'appelle Rats par Frankie Barbano et on se retrouve juste après.
Above the rain as it drops.
Écoutez toujours Cause Commune sur 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur causecommune.fm. Je suppose que les gens de la région de Lyon écoutent avec attention Romain Volpi, donc pour l'ALDI, l'association lyonnaise du pour le développement de l'informatique libre. Toujours aussi en compagnie donc, de Didier Clermontet, de l'INES, donc le logiciel libre en Essonne. On va citer d'ailleurs le site web de l'ALDIL, on a oublié aldil.org, ouais. L'INES, l'INES.org, et Magali Garnero, dite Bouquinette, pour Parinux, donc le groupe, le GUL de Paris et de sa région, et c'est parinux.org. Et Magali est tout à fait sympathique parce qu'en fait, elle lève le doigt pour intervenir, donc Magali.
Bah oui, parce que j'espère que des Lyonnais et des Stéphanois te regardent parce que t'es magnifique, t'es en costume.
Ah non, quoi, on avait dit qu'on ne balançait pas, on ne touche pas ni aux cheveux, ni aux... ni à la façon dont les gens s'habillent. Mais c'est vrai qu'il est, il est magnifique. Romain Volpi, il parlait de... Évidemment, Didier était aussi magnifique avec, dans un autre style. Alors, nous venons d'écouter donc Rats par Franky Barbano. Donc, évidemment, c'est sous licence libre. Les références sont sur le site de l'April, donc april.org. Et nous parlions avant la pause des groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres. Donc, les GUL, on avait parlé un petit peu des partenariats qui pouvaient être... des partenariats avec des lieux physiques, mais également avec des projets ou d'autres structures. J'en profite pour signaler que la lettre ouverte dont parlait Magali tout à l'heure sur la quadrature du net, je suppose que c'est la lettre ouverte contre la censure terroriste, le projet de règlement terroriste censure sécuritaire.
Exactement.
Alors j'en profite donc tout de suite, même si je le rappellerai à la fin de l'émission, que le vote en commission des affaires des libertés publiques au Parlement européen aura lieu lundi prochain, le 8 avril, et que toutes les informations pour se mobiliser, pour comprendre l'enjeu de ce dossier donc, de censure sécuritaire sont sur le site de la quadrature du net, donc laquadrature.net. Donc on va revenir à notre sujet sur les GUL, les groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres. Donc on a vu que ça visait des publics très variés, que le mode d'organisation de ces groupes était principalement du mode bénévolat, qu'il y avait des rendez-vous réguliers, des permanences. Alors c'est, des fois c'est tous les 15 jours, des fois c'est toutes les semaines, tous les mois à Paris, et puis évidemment dans les autres régions. Il y a des événements ponctuels importants, on en reparlera tout à l'heure, notamment avec les journées du logiciel libre de Lyon qui approchent, donc qui auront lieu ce week-end. Là, on va peut-être parler un petit peu des personnes qui voudraient contribuer à un GUL. Quelles compétences il faut pouvoir contribuer à un GUL, pour contribuer à ses activités. On a bien compris, voilà, on a bien compris le public que vous visiez. Voilà, est-ce qu'il faut des connaissances techniques ? Est-ce que quelqu'un qui n'a pas de connaissances techniques et qui veut simplement partager le savoir, comme vous l'avez tout à l'heure dit, ou aider, comme l'a dit Didier ? Donc voilà, quelles sont les compétences pour pas contribuer à la vie d'un GUL ?
Personnellement, enfin, sur la LDIL, on ne cherche pas forcément de compétences particulières, du moins pas de compétences techniques. On cherche des personnes motivées, en fait, et qui sont prêtes à donner un peu de temps en temps et aller... Et parler du logiciel libre aux gens. Enfin, pendant des installs parties, effectivement, on a besoin de personnes techniques. Mais même une personne non technique, elle peut aider, même pour les JDL, par exemple, en venant accueillir les intervenants, en venant parler avec les personnes, aller prospecter un petit peu pour voir les gens, pour leur demander de venir aux événements ou des trucs comme ça, quoi. Il n'y a pas besoin d'une compétence particulière, en fait. C'est ça qui est l'avantage des GUL et du libre en général, quoi.
D'accord. Didier, Magali ? Didier ?
Ben nous, on est quand même d'abord beaucoup plus petits que mes deux amis.
C'est pas la taille qui compte.
Oui. Pour aider les gens, j'ai quand même besoin de gens qui soient un peu techniques.
Alors, excusez-moi, parce que là, on est quand même parti dans une barre de rire. Mais alors, il y a des émissions. Là, je pense que les personnes qui écoutent l'émission régulièrement se disent que cette émission elle est particulière, elle n'est pas. Comme les autres, je pense que c'est en grande partie dû aux personnes invitées, mais ceci, ça me pose une question que je vais poser et que vous me répondrez après. Tu disais qu'effectivement, tu n'as pas la même taille que l'Aldil ou Parinux au niveau l'INES. Donc la question pour tous les trois après, c'est en fait, combien de membres bénévoles font partie de vos groupes ? Mais donc, on continue sur la partie compétences. Vas-y Didier.
Oui, donc pour aider les gens, j'ai besoin de gens qui s'y connaissent un tout petit peu. Donc on peut soit venir se faire aider, soit on aide. Mais pour aider, ben, il faut quand même maîtriser un tout petit peu, sans on n'aide pas. Quoi, voilà.
Alors est-ce que justement, et après je passe la parole à Magali, est-ce qu'une personne qui découvre le logiciel libre et qui se dit ce monde de partage, d'entraide me plaît bien, je voudrais un peu contribuer à un GUL, peut, comme l'a dit Romain, participer sur l'accueil, sur l'accompagnement des gens, sur la prospection. J'aime beaucoup ce terme prospection. C'est peut-être dû au fait que tu es habillé comme ça aujourd'hui. mais si une personne souhaite aller un peu plus loin, donc pour aider à l'accompagnement lors d'une fête d'installation, est-ce que vos groupes organisent des sessions pour les, entre guillemets, les former, ou en tout cas leur expliquer un petit peu les bases, leur permettant de leur mettre le pied à l'étrier quelque part? Didier ?
Moi, j'explique ce que je fais au fur et à mesure. D'accord. Maintenant, ça reste quand même assez limité, hein, bien sûr. Hein. Ouais. Maintenant, quelqu'un qui a commencé à apprendre, après, il peut apprendre aux autres. C'est une autre forme de partage, parce qu'une fois tout l'a vu une fois.
Oui. Parinux, est-ce que vous avez ce genre de
Alors,
système ?
Alors, nous, on a besoin de tout profil.
D'accord.
Pour les premiers samedis du libre, on a besoin de personnes qui accueillent, on a besoin de personnes qui installent, on a besoin de personnes qui soient suffisamment douées pour enlever les bugs qui sont créés, parce qu'il y a toujours un bug qui se glisse dans une installation. Parfois, on a des besoins de personnes qui seront là avant et après, qui n'ont pas besoin de savoir faire grand-chose, juste d'être là et d'aider à porter des colis, des câbles, des ordinateurs. C'est tout bête, mais c'est indispensable.
D'accord. Alors tout à l'heure, tant qu'on est à la question de la contribution, tout à l'heure, nous parlais une des activités de Parinux, c'est les soirées de contribution. Alors je ne suis pas sûr que beaucoup de GUL pratiquent ce genre d'activité, car finalement, c'est un peu le niveau au-dessus quelque part, c'est donc d'encourager des personnes à venir contribuer au logiciel libre. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne ?
En fait, en juillet 2014, on se retrouve avec Emmanuel Seyman, qui est très actif dans la communauté, que ce soit chez Fedora, chez Perl, chez Pense à Linux. Et on se dit
chez Parinux aussi, c'est
un ancien président de Parinux. Et on se dit que ça serait bien que des fois, on se donne des petits temps juste pour nous, entre contributeurs, pour faire avancer des projets. Et là, que ce soit du code, que ce soit de la traduction, quelle que soit la compétence, mais juste prendre un projet et le faire avancer. Lui, je sais qu'il s'intéressait pas mal aux journées Perl, qui allait avoir.
Perl, on va préciser que c'est un langage de programmation.
Exactement. Et là, il faisait un événement autour de cette journée-là. Et s'était rendu compte que l'année précédente, il avait fait ça depuis chez lui et que ça n'avait pas avancé aussi vite qu'il voulait. Et moi, je me suis rendu compte que pour certains événements aussi, on avait besoin de se retrouver et de discuter ensemble, de contribuer à des projets. Ce qui est amusant, c'est que c'est une réflexion qu'on a eue bien avant Contributopia de Framasoft. Et on s'est dit, on va mettre
Est-ce que tu peux expliquer en une phrase
Contributopia.
Si tu as compris ce qu'est Contributopia de Framasoft.
Alors, le Contributopia de Framasoft, il y a énormément d'objectifs et de points de vue différents. Moi, je l'ai compris de telle manière, c'est de permettre de rendre les gens acteurs dans leur informatique. Donc, ils peuvent contribuer, ils peuvent voir comment ça se passe, ils peuvent faire progresser les choses, ils peuvent se former à ce qui les intéresse et ils peuvent former les autres. On n'est vraiment plus dans une société de consommation, on achète bêtement, on consomme. On est vraiment dans une société de contribution. On devient actif, on devient réactif et du coup, après, on partage avec les autres. Voilà, alors, c'est ma vision à moi, hein. C'est pas forcément celle de Framasoft parce que je vous dis, on est une trentaine de membres et pour chacun, on a une définition à peu près différente, mais l'idée est là.
Je pense que Framasoft sera notre invité en juin, je pense. Nous aurons notamment Pierre-Yves Gosset qui viendra présenter tous les projets de Framasoft.
Bande de vénards. Bref, nos soirées de contribution, on se retrouve avec Emmanuel et on décide de mettre ça au point parce que ça nous évite de procrastiner chez nous. Et là, en étant à plusieurs, on est là, on peut soutenir pour faire avancer des projets. Et au départ, on décide de faire ça tous les 15 jours. On en parle à la FPH, donc à Vincent Calabre, qui dit « Oh, bah ouais, pas de souci. Moi, en plus, le jeudi, j'ai rien de prévu, donc je vous accueille sans souci. » Et puis, on commence à se dire « Alors, on fait ça le premier et le troisième, le deuxième et le quatrième. On fait deux jeudis consécutifs. » Bref, pour que ce soit beaucoup plus simple, on s'est dit de faire ça tous les jeudis. Alors, plus simple, oui, c'est plus simple, comme ça, les gens ne se posent pas de questions, ils savent qu'il y a une soirée de contribution, mais après, c'est de l'organisation. Il est hors de question qu'on vienne tous les jeudis, tous, Emmanuel et moi, pour animer ces soirées. Donc, on cherche d'autres contributeurs qui seront responsables. Bon, il se trouve que dans la réalité, Emmanuel et moi, on vient tous les jeudis. Mais bon, on n'est pas obligé d'être là du début à la fin.
Parce que vous n'avez pas de vie sociale en dehors du logiciel, quelque part.
Si, on a plein de vie sociale, je te rassure. D'ailleurs, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de concoyette. Rien à voir, private joke, mais message subliminal.
On balance des suggestions d'invitation. Voilà, ok, continue Magali. Donc, les soirées de contribution, donc chaque jeudi à la FPH.
Voilà, et au départ, c'est juste des soirées de contribution. Plusieurs personnes venaient. En moyenne, on est à peu près une vingtaine. Des fois moins, des fois le double, tous les jeudis soirs. Cette année, en septembre, avec ma présidente Chris, on s'est dit, si on mettait une thématique à ces soirées, parce que les gens, ils veulent contribuer, mais ils ne savent pas forcément à quoi. Donc, on s'est dit que le premier jeudi, on allait faire des soirées Ubuntu et Ouvre-Boîte, donc pour aider les associations d'Ubuntu FR et l'association Ouvre-Boîte, donc que tu as peut-être déjà invité ou que tu as...
Pas encore, mais ça fera partie des personnes invitées, mais tu peux expliquer ce que fait Ouvre-Boîte.
Alors, Ouvre-Boîte, c'est des gens merveilleux qui encouragent les administrations à ouvrir leurs données, que ce soit du code, que ce soit des bases de données, ainsi de suite. Et quand ils n'ont pas de réponse de ces administrations, ils appellent la CADA, ils envoient un petit mail bien réglementaire avec des sujets... du texte bien écrit, en disant « on ne nous a pas répondu » ou alors « on nous a répondu par négative » et on argumente de pourquoi il faudrait libérer ces données-là.
Alors, on précise que la CADA, donc, c'est la Commission d'accès aux documents administratifs et qui évidemment, on a déjà traité ce sujet dans l'émission Libre à vous avec notamment le président de la CADA, avec Regards Citoyens et Next Impact. Donc, vous allez sur le site de l'April, april.org, dans les archives de l'émission. Voilà. Vas-y.
Donc ça, c'est pour le premier jeudi. Mmh. Le deuxième jeudi, on a contacté Wikimedia France pour qu'ils viennent nous parler des projets différents. Alors, comme ils ont énormément de projets, ils peuvent tenir toute l'année sans souci. Le troisième jeudi, c'est l'April qui se réunit à partir de 18h45 pour le groupe sensibilisation. Et à 20h30, voire 21h, si le groupe sensibilisation a pris trop de place, c'est le groupe transcription qui se met à la tâche et qui transcrit pendant 1h30 des vidéos ou des émissions de radio comme celles qu'on écoute actuellement. Et puis le quatrième jeudi, c'est Framasoft. Donc là, la soirée de contribution se transforme en contrib atelier. Et je salue les participants comme Sangoku ou comme Rijelka qui ont animé ces soirées de contribution-là.
D'accord, c'est une bonne présentation. On précise que les noms que tu viens de préciser, de citer, ce sont des pseudos de personnes.
Exactement.
Souvent dans la communauté du logiciel libre, même dans d'autres communautés, l'utilisation de pseudos est assez récurrente. D'ailleurs, toi, tu es plus connu.
Oui, ça fait bizarre à chaque fois que tu dis Magali. Hein,
voilà, ça fait bizarre, mais bon, voilà. Récemment, d'ailleurs, j'ai reçu un courriel de quelqu'un qui me demande « Est-ce que tu connais une certaine Magali Garnero ?» Parce que je ne trouve pas d'informations sur elle. Je lui dis « Cherche Bookinet et tu verras, tu trouveras un peu plus d'informations. » Est-ce qu'à l'INES et à l'ALDIL, vous avez ce genre de soirée de contribution ou pas du tout ?
Non, pas du tout.
D'accord. Donc alors, si d'autres groupes GUL ont ce genre de soirée de contribution, nous sommes preneurs de l'information parce que, il y a effectivement, comme tu l'as dit, donc chaque jeudi à la FPH, mais on pourra annoncer sur la page de l'émission, sur le site de l'April, les autres soirées de contribution. Magali, tu veux rajouter quelque chose ?
Oui, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est très particulier avec Parinux et ce qui explique qu'on fait ces choses-là, c'est que nous, la plupart des associations ont leur siège à Paris. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin de nous pour marcher. Elles fonctionnent, elles ont leurs adhérents, elles ont leur lieu. Voilà. Donc nous, à Parinux, notre but, ça va être de les mettre en rapport les unes avec les autres. Je vois, quand je suis allée à Montpellier Libre, eux, ils organisent plein d'événements avec des drapeaux April, des drapeaux, la quadrature, etc. Mais c'est eux-mêmes qui les animent. Alors que nous, on n'a pas besoin d'animer ce genre d'événement-là parce que les associations sont déjà là. Donc c'est une force qu'on a à Paris.
Exactement.
À part Wikipédia qui est à Lyon.
Et Framasoft aussi est à Lyon. Oui.
Le siège de Wikipédia est à Lyon, c'est
non,
ça ?
Non, c'est Framasoft.
C'est Framasoft, oui, c'est ce qui me semblait. Sinon, je demanderai la semaine prochaine aux mes invités de Wikipédia de confirmer. On va revenir un petit peu donc, sur le public cible principal, qui est quand même les personnes qui découvrent le logiciel libre. Est-ce que vous avez est-ce que sur vos sites web, vous avez un sort de support via forum ? Est-ce que vous faites du support par courriel ou c'est vraiment que du présentiel ? Romain, Didier ?
On fait du support par mail et on a aussi un mastodonte en fait où du coup on va répondre aux questions. Après, il n'y a pas forcément beaucoup de monde. Généralement, on reçoit 2-3 mails de temps en temps, mais généralement c'est lors des événements ou lors des soirées jeudi libre ou jeudi du libre ou des trucs comme ça où on va avoir des questions, mais très peu sur le forum.
D'accord. Et côté l'INES ?
On a une liste de diffusion sur laquelle chacun peut s'inscrire totalement librement. Et de temps en temps, des questions, pas énormément.
D'accord. Et côté Parinux, est-ce que vous avez un support par mail ou par web ?
On a des questions, mais on les renvoie au samedi du libre ou aux APL. Les apéros parisiens du libre qu'on dit tous les 15 du mois.
Oui, parce que APL, si, ça veut dire ça peut vouloir signifier d'autres.
Mais on l'a choisi pour ça. Hein.
Ah, vous l'avez choisi pour ça. Alors, ça, ce qui me fait penser que un autre événement important dans la vie d'Aigule et même des organisations du logiciel libre, c'est les fameux apéros. Hein. Donc, par exemple, à l'April, on a un apéro par mois, un vendredi, donc la date du prochain n'est pas encore fixée. Donc, côté Parinux, c'est facile, c'est le 15 du mois. L'INES, vous avez plus des permanences, vous n'avez pas d'apéro. Et Lyon, de temps en temps, vous avez des apéros à Lyon, à Lille. Pas tout le temps.
Non.
Peut-être
vraiment.
La veille des JDLL, peut-être
oui,
le vendredi.
D'accord. C'est ça.
Voilà. Mais par exemple, tout à l'heure, tu citais le GUL de Montpellier, Montpellier Libre. Chaque troisième jeudi du mois, c'est un apéro April. Je sais que régulièrement, ils ont des apéros, ils accueillent d'autres structures. Je reviens à une question que j'ai posée tout à l'heure sur laquelle je n'ai pas eu de réponse, mais parce que je n'ai pas fait de relance. Et c'était la remarque de Didier, laissant sous-entendre que l'INES était un petit GUL par rapport au gros GUL que pourraient être l'Aldil et Parinux. Donc une question simple, en fait, ces structures, vous avez combien de bénévoles, de membres actifs dans vos structures ?
De membres actifs qui viennent aider tout le temps.
Qui participent aux événements, pas forcément tout le temps, mais en tout cas qui participent.
Je dirais une vingtaine.
Une vingtaine ? Donc côté l'INES ?
Alors, de cotisants, une dizaine, et puis un petit peu plus, quelques électrons libres qui passent de temps en temps, 15, quoi.
Magali ? Alors,
à Paranix, c'est un peu compliqué parce que les bénévoles, ils se mélangent. Ils font souvent partie de plusieurs associations. Donc, dans ma bénévole, je vais peut-être compter des gens qui sont à FDN ou des gens qui sont à l'April ou ainsi de suite. Mais je dirais que ceux qu'on voit le plus souvent, et pas forcément aux mêmes événements, doivent être une trentaine. Peut-être un peu moins. On va dire qu'on est une trentaine, mais ils ne sont pas tous adhérents à Paranix.
D'accord. Donc finalement, l'INES, ce n'est pas forcément si petit que ça par rapport à d'autres structures du libre, hein, que ce soit Parinux et puis l'Aldil. Donc on va rappeler quand même, encore une fois, qu'il y a d'autres GUL qui existent, hein, le site de l'agenda du libre. Est-ce que vous êtes en recherche justement de nouveaux bénévoles ou est-ce que vous avez des perspectives de nouvelles activités ? Tiens. Est-ce que les activités que vous faites vous suffisent déjà et remplissent déjà votre vie évidemment, mais est-ce que vous dites, tiens, j'aimerais bien dans les années à venir développer un nouveau type d'activité, je ne sais pas, ouais. Des formations, l'Aldil, vas-y.
Les apéros. Non, mais réellement, on y pense, c'est juste qu'il faut qu'on trouve l'endroit, le lieu qui nous permette de le faire sans problème et qu'on puisse discuter tous ensemble sans avoir trop d'interférences autour, en fait, voilà, quelque chose de sympa et tout, mais il faut le mettre en place et ça demande des autorisations, des assurances et des trucs comme ça.
Ah, ça c'est une bonne question, tiens. Question pratique en fait, une personne qui va... on va poser une question sur des GUL qui n'existent pas, justement. Supposons qu'on est dans une région, alors je ne sais pas quelle région, mais une région où il n'y a pas de GUL actif, ou en tout cas pas proche, une personne se dit, ou des personnes se disent, je veux monter un GUL. Est-ce qu'il faut un... statut juridique particulier ? Est-ce que c'est forcément une association ? Est-ce qu'il faut des assurances particulières ? Voilà. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui voudrait monter un GUL dans une région où, a priori, il n'y en a pas, selon l'agenda du Libre, le site de référence ?
Être à plusieurs.
Alors déjà, être à plusieurs. Donc
être
pas,
au moins
pas une
deux,
personne.
Ça c'est le minimum pour monter une association ou une entreprise. Mais surtout, être à plusieurs pour se motiver les uns les autres à faire des choses. Moi, c'est le premier conseil que je donne, c'est gratuit, c'est cadeau. Être à plusieurs, parce que si on est tout seul, c'est forcément voué à l'échec. Quand on est deux, on peut faire des brainstorming, on peut inviter deux réseaux différents, et donc ça a plus de chances. Après, dans les autres conseils, faire ce que vous aimez de faire. C'est-à-dire, ne faites pas une activité comme de la maintenance informatique ou du service après installation si vous n'aimez pas ça. Parce que du coup, ça deviendra vite une contrainte et vous vous arrêterez très, très rapidement. Donc, ne proposez que des activités que vous aimez. Et si c'est que des apéros, eh ben, n'organisez que ça. Peut-être que lors de ces apéros, il y a des gens qui discuteront avec vous et qui vous diront oh, bah, c'est cool, moi j'aimerais bien faire ça. Et du coup, pouf, nouvelle activité.
Didier ?
Alors oui, pour compléter ce que j'ai dit tout à l'heure sur les partenariats, le RERS, effectivement, on est basé chez eux, au point de vue légal. Mais par contre, physiquement, on fait nos réunions dans le club, un petit club informatique local de Juvisy, le club informatique de Juvisy, qui nous héberge. Donc, en somme, ils nous prêtent leur salle deux samedis par mois gratuitement. Mais ça, on a besoin de... Donc ça nous permet d'avoir pas avoir de frais.
D'accord. Donc se rapprocher d'une structure,
existante.
D'une structure existante. Donc ça peut être celle que tu cites, ça peut être un espace public numérique, comme j'en ai cité tout à l'heure. Voilà. Romain, est-ce que tu as des conseils sur l'habillement ? Est-ce qu'il faut forcément avoir un t-shirt ou est-ce qu'il faut avoir une costume, une cravate, une chemise blanche, le pauvre ? C'est Magali qui a commencé.
Je prends cher. J'aurais pas dû venir en fait. Non. J'ai pas forcément de conseils. Si, enfin, les conseils qui ont été donnés sont largement suffisants. En fait, il faut être plusieurs, faut être motivé, faut pas se lancer dans quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Sinon, c'est là où on va courir la catastrophe. Mais non, c'est les meilleurs conseils que je crois qu'on peut donner. C'est se regrouper à plusieurs et être motivé pour ce qu'on fait.
Magali.
Pour revenir à ta question que tu avais posée juste avant, et comme il ne reste pas beaucoup de temps, je fais un appel. Nous, à Paris-Nux, on s'est lancé pour devenir un chaton. Donc, on va être une portée de chatons du mois de juin. Enfin, j'espère, je croise les doigts. On va l'appeler Basse-Tête. On a déjà...
Vous allez l'appeler comment ?
Basse-Tête.
Basse-Tête, d'accord.
Voilà, comme la déesse égyptienne de la fertilité.
Ok.
Et donc, pour ce chaton, on cherche des cat-sitters. Donc, des gens qui voudront...
Cat-sitters. Qu'est-ce que ça veut dire, un cat-sitter ?
Alors, si tu vois ce que c'est qu'une babysitter ?
Ouais, à peu près, ouais.
Et bien, cat-sitter, c'est pour animer des services de notre chaton, que ce soit un date ou... Alors, je sais qu'il y en a déjà une dizaine à peu près, parce que comme on a Dino, Nicolas Chonte, qui nous a installé ça, il a installé un S-Cloud, enfin, il a installé énormément de choses, donc on a déjà pas mal. Mais on a beaucoup de services et on n'a pas assez d'animateurs, ce qui est à peu près courant chez les chatons. Donc je fais un appel, si vous avez envie de participer à notre chaton, je suis désolée, je fais de la concurrence à Chapril, n'hésitez pas, sachant que si vous êtes si vous êtes motivé pour venir chez nous, vous pourrez aussi être motivé pour installer le même service au Chapril, donc ça peut être sympa.
Et le principe des chatons avec un S, c'est justement le S, la multiplicité de ces services, plutôt que de dépendre d'un seul structure qui gère à la fois les services et vos données. On va bientôt passer à un sujet suivant, tout en restant avec un de nos invités, notamment Romain. On en était au niveau des appels. Est-ce que côté l'INES et l'ALDIL, vous avez des appels à faire passer, des besoins particuliers ? L'INES, Didier Carmonté.
Ah, plus que les gens viennent plus, oui.
Que les gens viennent plus.
Oui. Après, bon, là, on a quand même quelques actifs. C'est sympa. Il faut voir que maintenant, là, on est plutôt dans une phase de renaissance de l'INES, qui a eu un gros passage à vide il y a quelques années, hein, qui avait quasiment mort. Là, pour l'instant, on redémarre un peu. Bon, espérons, on verra l'année prochaine. Hein.
Il est super modeste parce que la première fois que j'ai rencontré Didier, c'était à une AG de l'April. Il m'a dit moi, je suis tout seul dans mon GUL, je m'ennuie. Et là, maintenant, ils font des permanences tous les mois. Vous êtes une vingtaine. Je veux dire, c'est pas juste une renaissance. Là. C'est génial ce que tu as fait avec ton GUL.
Historiquement, ça a été beaucoup plus gros. Hein. Il y a eu historiquement des réunions communes Paris-Nux-Lines, hein, il y a 15 ans.
On refait ça quand tu veux.
Ah bah, ils sont en train de prendre rendez-vous tous les deux. Là. Après, ça fait partie de la vie des GUL, même globalement des associations. Il y a des hauts et des bas. On connaît des associations qui aujourd'hui n'existent plus, ou en tout cas que sur le papier. Donc voilà, ça existe, hein, c'est la vie. Hein, je salue effectivement le travail mené notamment par Didier et puis les autres bénévoles de l'INES pour cette renaissance de l'INES. Donc côté Aldil, à part avoir du public samedi, mais on va en parler samedi-dimanche donc à Lyon pour les Journées du Libre, on va en parler juste après que Isabelle là, est-ce qu'il y a des besoins particuliers?
Je dirais plus de membres actifs, ça serait pas mal. Hein.
C'est assez traditionnel, on va dire, voilà. Avoir plus de membres actifs pour ne pas reposer sur la même petite équipe, quelque part, de gens surmotivés, mais qui peuvent se fatiguer un petit peu.
C'est ça, tout à fait. Plus on a de monde, plus on peut organiser l'événement, et surtout, plus on peut avoir de monde et différent, en fait, et croiser plus de têtes.
Exactement. Je vous remercie donc tous les trois. Donc le site de référence donc pour trouver le GUL près de chez vous et lui dire de bouge ton GUL, je le refais une deuxième fois. Donc c'est évidemment le site de l'agenda du libre, agendadulibre.org. Je vais donc rappeler les sites web des trois GUL qui étaient présents ici. Donc côté lyonnais, donc c'est aldil.org, l'INES, l'INES.org. Parinux.org, c'est assez facile, hein. Souvent ça se finit en .org, et évidemment il y a à peu près, alors sur l'agenda du Libre, ça c'est de mémoire, je dirais 180 peut-être, 200 GUL répertoriés, moins
La moitié,
alors peut-être que c'est toutes les organisations globalement.
À peu près un par département, les GUL, sauf certains départements, il y en a plusieurs, mais effectivement si tu rajoutes toutes les associations nationales, les tiers-lieux et ainsi de suite, on monte à 200. Ouais.
Voilà, donc on monte à 200. Alors, je vous remercie tous les trois. Vous allez rester pour la suite, et notamment Romain.